David Lussault, je crois que vous travaillez aussi en milieu rural.
Oui, bonjour.
Oui, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail au sein de l'association RESEDA, le réseau d'information SIDA?
Réseau de santé d'entraide sur les thématiques sexualité et SIDA.
D'accord.
Donc, je suis l'animateur et le coordinateur. Donc, j'interviens auprès de tous les publics, publics jeunes et publics moins jeunes, pour essayer d'apporter de l'information autour de ces thématiques-là. L'idée étant bien entendu d'informer, de sensibiliser. On va peut-être revenir un petit peu sur les modes de contamination. C'est vrai qu'on a parlé de façon assez brève des modes de transmission. Il n'y en a pas 36 000. Trois modes de contamination: le sang, le sexe et la voie materno-fœtale. Sauf que quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a pas dit grand-chose. Et c'est en ce sens que j'aimerais apporter un petit plus. Dans quel objectif? Déjà dans l'objectif de faire tomber pas mal d'idées reçues, dans l'objectif de casser certaines représentations. Parce que quand on dit transmission par le sang, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut être contaminé par le sang? Si je pose la question à la salle, je ne sais pas si certains vont savoir répondre. Donc la première chose, par le sang, effectivement, le partage de seringues. Effectivement, M. Dubuchet l'a dit tout à l'heure, les populations toxicomanes font partie de ces populations qui ont été touchées par la contamination, même si aujourd'hui il y a une politique de prévention, de réduction des risques qui est mise en place et qui a porté ses fruits, notamment au niveau de la méthodologie de l'échange de seringues. Donc l'échange de seringues fait partie des modes de contamination. Qui peut utiliser aussi des seringues? Tout ce qui est tatouage, tout ce qui est piercing. Je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé. Je crois qu'il faut faire attention dans les endroits où on va se faire percer et tatouer. Alors, je ne dis pas ça pour
faire pas affoler tout le monde.
Non,
c'est
non,
vrai
non.
Que les seringues, il n'y a pas que les junkies qui utilisent des seringues. Quoi. C'est ça aussi qu'on veut dire. Début des années 80, c'est vrai que le sida, c'était soi-disant, dans les idées reçues, réservé pour les toxicomanes et les homosexuels. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a bien compris que tout le monde peut être atteint de cette maladie. Et donc, ce n'est pas simplement les gens qui sont drogués, qui s'injectent de la drogue par intraveineuse, qui utilisent des seringues. Il y a également tout un phénomène, entre autres, de mode, de gens qui font des piercings, qui font du tatouage, où effectivement, la plupart de ces gens-là sont
oui.
des professionnels et font un travail très, très correct, il n'y a pas de problème. Mais comme partout, il faut toujours faire attention et on n'est jamais mieux prévenu que par soi-même. C'est-à-dire, quand on se fait tatouer, faut quand même vérifier, essayer d'avoir un œil sur le professionnel qui est là, voir s'il a bien fait son boulot, si le matériel est neuf, si, enfin voilà, tout un
voilà,
il faut précaution,
faire...
quoi.
En général, les tatoueurs, perceurs qui ont pignon sur rue, qui ont leur propre salon, respectent les règles d'hygiène élémentaire, à savoir l'utilisation d'une seringue à usage unique. Simplement, faites attention lorsque vous allez vous faire tatouer ou vous faire percer sur dans des endroits festifs, tout ce qui est technival, festival, l'été, sur les plages, où il y a des stands qui s'installent un petit peu comme ça à la sauvette et qui ne respectent pas toujours les règles d'hygiène élémentaire. Donc, effectivement, dans ces endroits-là, c'est pas cher, on peut se faire un tatouage ou un piercing vite fait, mais on peut être aussi contaminé. Alors par le VIH, mais aussi par les, je dirais, comme le disait, surtout par le virus de l'hépatite C. Comme l'a dit M. Dubuchard tout à l'heure, effectivement, le virus de l'hépatite C est un virus très résistant et qui donc beaucoup plus contaminant. On me dit souvent aussi, est-ce qu'aujourd'hui, la transfusion sanguine pose un risque?
Ça, c'est un rapport, comme disait William tout à l'heure, c'était les trois H, on stigmatisait les trois H. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les années 80. C'est les héroïnomanes, les hémophiles et ensuite donc tout ce qui est les homosexuels.
Ce qui est contamination donc par rapport à la voie sanguine, est-ce que la transfusion aujourd'hui comporte un risque? Aujourd'hui, on peut dire que non, le risque de contamination lors d'une transfusion sanguine est quasiment nul. Je dis pas qu'il y a un risque zéro parce que le risque zéro n'existe pas, n'existera pas, quel que soit le domaine. Mais aujourd'hui, le risque de contamination, en tout cas en France, est quasiment nul. On estime à peu près à une poche sur 5 millions le risque qu'elle soit contaminée.
Alors oui, après, c'est bien de préciser en France, parce qu'effectivement, dans d'autres endroits de la planète, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on avance un petit peu, et puis qu'on pourra peut-être revenir sur ces sujets, mais qu'on parle des traitements, des espoirs qu'il peut y avoir, de l'évolution, et de quel espoir il y a pour les patients aujourd'hui. Jean-François Delfrécy, qui a été nommé directeur de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites, professeur d'immunologie clinique et de médecine interne à la faculté de médecine de Paris-Sud. Il a été l'un des pionniers de la lutte contre le sida en France. Il a accompagné dès 1983 les patients atteints par le VIH à l'hôpital Antoine Béclair. Et son activité clinique s'est poursuivie à l'hôpital de Bicêtre, où il dirige depuis 1996 le service de médecine interne. Alors, le 5 juillet 2006, il déclarait, une déclaration me semble-t-il importante, hein, vu qu'il est, il a été nommé donc, directeur de l'Agence nationale de recherche du sida. Alors, il disait donc, nous avons maintenant trois nouvelles molécules prometteuses à portée de main. Aussi, nous comptons d'avance sur le soutien des associations de malades pour accélérer leur mise à disposition dans des essais. Voilà. Donc, je voudrais demander à Pierre-Olivier de Buchère, dans les actes, comment ça se traduit depuis juillet 2006.
Donc, globalement, effectivement, on a trois nouvelles molécules. Alors, attention déjà par rapport aux limites. Hein. C'est clair que vis-à-vis de ces nouvelles thérapeutiques, nous ne sommes toujours pas dans l'idée de guérir la maladie. Nous sommes toujours dans l'idée de contrôler son évolution, en particulier de contrôler la reproduction du virus à l'intérieur de l'organisme. Donc l'espoir de guérison, entre guillemets, est encore à l'horizon très lointain. De même d'ailleurs que l'espoir de vaccin vis-à-vis du virus, si on en croit les données qui ont été révélées à la conférence de Toronto. Effectivement, pour l'instant, il y a trois nouveaux médicaments. Ils sont sur une procédure d'ATU, donc c'est une procédure de mise à disposition pour les personnes qui en ont besoin, donc qui sont en situation d'échec thérapeutique vis-à-vis des autres médicaments qui sont disponibles sur le marché. Donc l'échec thérapeutique, c'est 5 à 6% des personnes atteintes. C'est un protocole, je dirais, d'exception, où le médicament n'est pas encore reconnu et validé par l'agence, enfin, l'ancienne agence du médicament en France, donc la FAPS. Donc il y a un acronyme un peu plus difficile, mais donc effectivement, quand la situation est une situation d'impasse thérapeutique, ces molécules peuvent être mises à disposition des personnes selon un protocole assez complexe.
Il ne faut pas rêver, de toute façon, ce n'est pas pour demain qu'on va trouver un vaccin. On travaille dessus, les chercheurs sont là, il y a des avancées, mais ce n'est pas pour demain.
Alors, tant côté traitement curatif, hein, l'idée qu'on puisse guérir du sida, que côté vaccin, on est sur un horizon qui sera beaucoup plus proche, à mon avis, de 2050 que de 2010.
Alors, pour revenir un petit peu à ces molécules qui, soi-disant, sont prometteuses, on l'espère, pour aborder peut-être un petit peu les trithérapies, il y a eu plusieurs générations de trithérapies, de médicaments donc, qui ont été mélangés, je crois, hein, on peut dire ça comme ça, une association de médicamenteuses. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, pour une personne malade qui prend des médicaments, comment ça se passe? C'est plus facile aujourd'hui? Ça se supporte mieux, même si on sait que tout le monde ne supporte pas forcément bien les médicaments. Mais est-ce qu'on est au moins un peu plus dans le confort? Et je parle de confort pour parler peut-être après de rapport peut-être sociétal avec les autres, son entourage, l'univers qu'on côtoie au quotidien, dans les lycées, dans les collèges, dans le monde professionnel, etc. Parce qu'il y a une visibilité aussi de la maladie.
Par rapport aux successions de trithérapies qui sont apparues, hein, je mets de côté les trois molécules dont vous parliez. Globalement, le principe aura été, c'est que ce sont des médicaments très très proches les uns des autres. La difficulté qu'on a avec le virus du VIH est la difficulté majeure. Tout à l'heure, on avait un aspect optimiste en disant effectivement que la durée de vie à l'air libre relativement faible. Par contre, c'est un grand mutant devant l'éternel. Donc, effectivement, les personnes qui sont traitées par les médicaments, le virus mute à l'intérieur de l'organisme et il devient résistant aux médicaments. D'où la nécessité, avec une certaine régularité, de changer de médicaments. C'est un médicament qui est relativement proche, mais qui n'a pas exactement les mêmes effets au niveau de son attaque par rapport au virus, puisque le virus est devenu résistant aux médicaments précédents. Alors, en termes de confort, oui, on a fait des améliorations. Alors, c'est plus des améliorations, non pas tant techniques ou d'ordre chimique, que surtout qu'on connaît de mieux en mieux ces types de médicaments. On sait beaucoup mieux qu'auparavant quand il est nécessaire de traiter ou de ne pas traiter. Au tout début, en 1996-1997, l'idée c'était qu'on envoyait des doses de trithérapie très très fortes et le plus rapidement possible à toute personne qui était atteinte par le virus. Maintenant, on sait que c'est faux et qu'il y a un certain nombre d'indicateurs biologiques, au niveau de la charge virale en particulier, qui permet de dire que là, il faut traiter à tout prix Et là, on peut encore attendre, ce qui permet d'éviter que les personnes subissent les effets secondaires avant qu'elles n'aient à les subir. Alors, par contre, les effets secondaires, effectivement, sont très importants. J'ai juste évoqué tout à l'heure très très rapidement et il faut les avoir en tête. Globalement, il y a des effets, je dirais, immédiats lors de la prise des premières thérapies. Alors, en général, ça passe avec le temps, Dieu merci, qui sont des effets de type diarrhée ou de type nausée. Mais surtout à terme, cela crée des modifications assez importantes au niveau de l'organisme. Et par exemple, des problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les problèmes de l'hypodystrophie. Donc les trithérapies modifient le métabolisme des graisses dans l'organisme et les personnes peuvent se retrouver avec une disparition de la masse graisseuse, par exemple au niveau des joues, avec donc un phénomène de joues creuses très très affirmé et un visage un peu cadavérique. Mais à l'inverse, ça renforce les masses graisseuses dans d'autres parties du corps et donc ça donne des silhouettes assez disgracieuses qui posent réellement, réellement problème pour les gens au long terme, au sens où ça peut devenir, entre guillemets, une bonne raison d'arrêter sa trithérapie.
En tout cas, d'arrêter aussi peut-être d'avoir une vie sociale. Parce que l'acceptation dans ce cas-là devient plus difficile.
D'autant plus que dans ce cas-là, effectivement, tout d'un coup, on a très longtemps dit que la maladie ne se voyait pas, et pour l'occasion, si à ce moment-là, elle se voit.